Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni. Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Va-t-on vers une nouvelle crise du football malien? C'est la question que le Grand Dialogue se pose aujourd'hui. En tout cas, la tension monte depuis quelques jours entre le comité exécutif de la Fédération malienne de football et certains joueurs de la sélection nationale. La semaine dernière, dans une déclaration commune, les joueurs de l'équipe nationale de football ont appelé les responsables de la Fédération malienne de football à prendre leurs responsabilités. Ils dénoncent la mauvaise gestion de ces derniers, cause selon eux de la stagnation des résultats du Mali dans les compétitions internationales. Les Aigles menacent même de boycotter les prochains matchs du Mali s'il n'y a pas de changement. Hier lundi, dans la soirée, nous avons appris sur les réseaux sociaux la convocation du capitaine de l'équipe nationale, Amari Traoré, par la fédération. Faut-il craindre une nouvelle crise dans le football malien? Quelles peuvent être les conséquences de cette tension sur les prochaines sorties des Aigles du Mali? Avec nos invités aujourd'hui au nombre de trois, nous en parlerons. Il s'agit de Souleymane Bobo Tunkara, Drissa Nyono et Amadou Kouyaté, tous des journalistes sportifs. Sekou Gadjigo modérera ce débat. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, une question plateau hein, pour tout un chacun. Si vous pouvez nous dire ce que vous en savez de cette crise, d'où est partie cette tension, Souleymane Bobo Tunkara?
Merci bien. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs et les téléspectateurs. Bon, la crise, elle est partie de loin. Elle est partie de loin. Moi, je dirais seulement qu'elle a culminé avec les deux derniers matchs du Mali qui ont entraîné le limogeage de l'entraîneur national et le voyage catastrophique qu'il y a eu en Afrique du Sud. Sinon, je pense que la crise, elle est là. Hein, depuis, je dirais même pas depuis plusieurs mois, mais depuis plusieurs années. Elle n'avait pas éclaté.
Mais une tension entre le comité exécutif et les joueurs, Est-ce que ce n'est pas nouveau?
Ça, c'est nouveau. Ça, c'est justement la nouveauté de cette crise. Et c'est même, à ce niveau, on peut même parler de quelque chose d'inédit. À ma connaissance, en tout cas, il n'y avait jamais eu autant de tensions entre la FEMAFOOT et les joueurs. Il y a eu des crises entre les dirigeants eux-mêmes, il y a eu des crises entre le ministère et la fédération, il y a eu des crises entre la fédération et les ligues, mais une crise comme ça, crise ouverte entre la fédération et les internationaux, moi, à ma connaissance, c'est la première. Je dis bien à ma connaissance, c'est la première.
Kouyaté, Amadou.
Donc, comme le doyen l'a si bien évoqué sur son passage, je ne dirais pas assez que de cela. Mais c'est clair de le retenir quand même, cette crise-là, comme c'est la première, comme il a si bien dit. Je pense qu'en réalité, cette crise peut nous amener plus loin. En réalité, surtout, ce qui était évoqué au cas des joueurs, quand même, qui ont fait d'abord la première lettre qui a été sortie, publiée par le capitaine, quand même, qui a suscité beaucoup, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi le deuxième.
Qu'est-ce qu'il disait dans cette lettre?
Donc, la première lettre, il a parlé sur le voyage qui s'est effectué au niveau de Johannesburg. Donc, je pense qu'en réalité...
Ah oui, la première sortie qu'il a faite. Mais oui. Est-ce que ça, c'était pas une déclaration que partageaient tous les joueurs? C'est pas comme celle qui est sortie il y a deux jours?
Non, pas seulement que tous les joueurs. Même dans tout le domaine sportif, que ce soit du football, mais dans d'autres domaines sportifs, quand même, tout le monde n'a pas apprécié ce voyage. Quand même, sous le ministre même, quand même, a sorti pour dire qu'ils ont fait une lettre pour dire que les têtes vont tomber. Maintenant, pour faire quoi? Quand même, le voyage, quand même, s'est mal organisé. Les têtes vont tomber. Jusqu'à présent, à preuve du contraire, on n'a pas vu quand même les têtes tomber. Donc, voulant de cela, quand même, la deuxième lettre, quand même, qui a été publiée et qui a été republiée par presque tous les joueurs aussi, tel a été le cas. C'est là où maintenant, quand même, les choses ont allé en danse pour dire qu'en réalité, maintenant, il y a un bras de fer sérieux entre la FEMAFOOT et les joueurs.
Ok, Drissa Nyono, qu'est-ce que vous savez de cette crise? Pour vous, ça a commencé où? Est-ce que c'est à partir du limogeage d'Éric Sékouchel, le sélectionneur national, comme l'a dit le doyen?
Non, pas du tout. Parce qu'il faut reconnaître, et il faut que les Maliens sachent également la vérité, c'est que la tension elle est montée après le match. Contre le Ghana. Donc, il s'est trouvé qu'il y a deux fois, on fait réveiller les joueurs pour aller à l'aéroport et il n'y a pas de voyage. Donc après ça, il y a le vice-président qui s'est...
Ça, c'était avant la CAN ou après la CAN?
Ça, c'est après la CAN. Mmh. Après la CAN, donc certes, il y a eu le rassemblement où, il faut reconnaître, il y a eu des insuffisances. Et lors même de la préparation. Et donc, ça, à Kabbalah. Donc après le match, il y a eu une défaite. Tout le monde est dessus. Mais dans la préparation du voyage, avant même que les joueurs ne quittent ici, la tension, elle a commencé à Kabbalah. Parce que le vice-président est parti rendre visite aux joueurs avant le voyage. Et ils ont demandé à ce qu'on leur dise la vérité de ce qui se passe. Donc, entre les échanges, ben, les tensions, les mots sont... la tension a monté. Mm-hmm. Parce que quand on est dirigeant, quelquefois, moi, je me dis, il faut avoir de la retenue. Quand vous parlez surtout aux joueurs, dont certains même peuvent être votre enfant. Donc je pense que c'est parti de là. Il y a des mots déplacés qui ont été annoncés. Donc les joueurs ont répondu. Donc c'est parti de là. Donc après ça, vu qu'il y a eu deux reports du voyage, le troisième non plus ne s'est pas effectué et les joueurs ont voyagé tard. Et ils avaient annoncé aux joueurs que c'était par voie affrétée. Après, ils ont été appelés individuellement pour aller. Donc je pense que l'attention est partie de là. Ou après, le vice-capitaine, c'est le vice-capitaine qui a eu à échanger avec le premier vice-président. Donc, au nom de l'équipe, le capitaine, avant le match, vu qu'ils sont arrivés en retard, a fait sortir un communiqué au nom de l'équipe pour parler du voyage, pour dire que, bon, à un moment donné, nous sommes des joueurs, mais parfois, il faut également nous écouter.
Ok. Tout ça, c'est après le match contre le Ghana.
Tout ça, c'est après le match contre le Ghana. Voilà, ça a commencé là, le jour même. Donc, je peux dire même le jour même du voyage, parce qu'ils sont partis, si j'ai bonne mémoire, la nuit. Et... Voilà, donc, mais c'est le matin où, avant qu'il ne quitte, il y a eu cet échange-là entre les joueurs et le vice-président et tout est parti de là.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire que les joueurs seraient aussi mécontents des conditions dans lesquelles le sélectionneur a été limogé et qui aurait suscité toute cette colère au sein de la sélection?
Je ne peux pas dire ça parce que ce n'est pas leur responsabilité à eux. Parce que le sélectionneur, il est choisi par d'autres. Ce n'est pas eux qui choisissent le joueur, le sélectionneur. Bon, ce cas, je pense que ça s'est arrivé peut-être que quand le sélectionneur a été limogé, ils ont apporté leur principe de soutien pour le saluer pour ce qu'il a fait. Je pense que ça, les joueurs ont fait et ils ont manifesté ça sur eux. Mais avant que le sélectionneur ne soit limogé, il y avait déjà cette tension qui existait.
Alors, nous avons essayé d'avoir quelqu'un membre de la Fédération malienne de football sur ce plateau, mais nos tentatives sont restées vaines. La Fédération décide de ne pas communiquer avant une réunion qu'elle prévoit de tenir bientôt sur la question. Souleymane Bobo Tunkara, beaucoup de gens parlent du limogeage d'Éric Sékou-Cel qui aurait déclenché cette crise. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que le timing était bien choisi pour se débarrasser du sélectionneur?
Bon, le sélectionneur, il a été limogé tout simplement pour insuffisance de résultats. Vous savez, quand une équipe ne gagne pas, c'est toujours l'entraîneur qui paye les pots cassés.
On a vu que c'est deux, en tout cas, une défaite, un match nul aux éliminatoires du Mondial. Mais bien avant, il avait fait de bons résultats dans des matchs amicaux et le parcours à la CAN n'était pas aussi mauvais que ça. Est-ce qu'on n'a pas été un peu impatient?
Moi, je fais partie des gens qui ont demandé à ce que ce sélectionneur-là soit maintenu après la CAN. Je crois l'avoir dû à plusieurs reprises. Sur les plateaux télé, dans les interviews que j'ai accordées à la presse. Donc je faisais partie des gens qui étaient pour son maintien. Parce que j'ai trouvé qu'il avait amené un nouvel état d'esprit au sein de l'équipe. J'ai trouvé aussi que son parcours à la CAN n'était pas mauvais. Il a seulement fait ce match-là contre la Côte d'Ivoire où il est passé à côté. Et moi, ce que j'ai aimé chez lui après ce match, il a reconnu sa responsabilité. Il dit qu'il est le seul responsable de cette défaite, qu'il a fait des mauvais choix. Donc déjà, ça c'était un mea culpa, moi qui m'a beaucoup plu, mais surtout l'état d'esprit qu'il avait amené au sein de l'équipe. Mais mon problème, c'est quoi? C'est qu'après ce match, il n'a pas gagné un seul match contre une grande équipe. C'est ça le problème. Depuis qu'il est à la tête de la sélection,
il a quand même.
Non, ça c'est un match amical. Ça, vous savez, le Mali gagne toujours en amical. Oui. Hein. Même quand on joue, excusez-moi du terme, même quand on joue contre le Brésil, on obtient toujours de bons résultats. Mm-hmm. Mais dans les compétitions, moi j'ai regardé son bilan dans les compétitions internationales, il a gagné contre aucune équipe. Or, on a joué contre quatre grandes nations du football africain, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Tunisie. Et c'est voilà trois. Ces trois, il a fait match nul et ensuite il a été battu deux fois. Donc la défaite contre la Côte d'Ivoire à la CAN, en réalité, n'a pas beaucoup. Je ne peux pas dire que ça n'a pas déçu les Maliens, mais ce n'est pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mm-hmm. Parce qu'après cette défaite, on s'attendait à ce qu'il tire tous les enseignements. Lui, la fédération et même le ministère, qui tire tous les enseignements de ce parcours. Parce qu'il y a eu des choses, effectivement, avant ce match contre la Côte d'Ivoire, qui ont dû perturber l'atmosphère, qui ont dû jouer sur les joueurs. Maintenant. Ce qui n'a pas marché chez lui, c'est qu'on a constaté après la CAN, il a perdu contre la Côte d'Ivoire dans les dernières minutes et pratiquement tous les matchs qu'il a joués après, c'est la même chose. Et ensuite, on a remarqué, et ça c'est vraiment dommage pour lui, que pratiquement tous ces changements sont improductifs. Donc ça veut dire qu'il n'a pas tiré beaucoup d'enseignements de ce qui s'est passé à la CAN. Donc, moi, je ne dirais pas que le timing est bon, mais le timing n'est pas bon, mais c'est quand même quelque chose, il fallait changer. Il fallait changer de coach pour peut-être provoquer un électrochoc chez les joueurs. Parce que la campagne du mondial, au départ, il a gagné contre le Tchad et après, il a fait match nul contre la Centrafrique avant de se faire battre par le Ghana et ensuite d'aller concéder un autre match. Donc déjà, le Mali, avec ses résultats après 4 journées de compétition, le Mali n'est plus maître de son destin. Le Mali peut même gagner tous les matchs restants sans se qualifier. Donc, il faut changer. Comme les éliminatoires sont prévus jusqu'en mars 2025. Donc, moi, je trouve normal que son limogeage. Bon, maintenant, les causes, ça, c'est autre chose.
D'accord.
Les causes, ça, c'est autre chose.
D'accord. Nous avons posé la question, en tout cas, à certains fans du football à Bamako, mais aussi dans les régions, puisque cette sortie des Aigles a fait susciter beaucoup de commentaires. Nous écoutons ce micro-trottoir réalisé ici à Bamako et en région.
À mon humble avis, c'est juste pour manifester leur soutien par rapport au départ du coach Eric Sekouchal. Et rien que ça. Sinon, qu'est-ce qui justifierait vraiment cette sortie de menacer de ne plus participer au match de l'équipe nationale? Tant que je veux dire, les choses ne changeront pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Soit changer au sein de la fédération. Il faut qu'ils nous parlent de ça.
L'équipe est devenue un problème de clan. Donc, dans une équipe, si c'est comme ça, c'est difficile que les choses marchent. Ils devaient le faire à temps avant que l'entraîneur soit limogé.
Le moment aurait pu être choisi avant le limogeage du coach, selon moi.
En réalité, quand il dit comme ça, il dit peut-être en connaissance des causes. Maintenant qu'il le dit aussi, peut-être que c'est maintenant qu'il s'est rendu compte.
Qu'est-ce qu'il se plaint par rapport à la gestion de la fédération?
Drissa Nyono, une première question. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on change? Le monsieur a posé la question. Il demande un changement. Qu'est-ce que cette sélection veut qu'on change maintenant?
Bon, en tout cas, ça aurait été mieux que ça sorte de leur bouche à eux-mêmes. Maintenant, moi, en tant que journaliste, et les informations dont j'ai pu recueillir, c'est que d'abord, il faut reconnaître que quand les joueurs sont appelés, ils sont appelés par la fédération. Et s'ils ont des doléances, c'est à la fédération qu'ils demandent et à la fédération de trouver des solutions avec le ministère pour régler leurs doléances. Maintenant, moi, sur le plan technique, sur le terrain, l'organisation pour améliorer les conditions de performance. Et sur ce point, je pense que ce qui a failli, à mon avis, lors de ce rassemblement, c'est la récupération. C'est qu'après les entraînements, ou soit même après le match, il faut un moyen pour récupérer. Ce moyen de récupérement, c'est quoi? C'est la cryothérapie. Et ça, lors de la rénovation de Kabbalah, il y a une machine spécialement et spécialisée pour cette récupération qui avait été amenée et qui avait été apportée. Mais il se trouve que, bon, pour des problèmes d'énergie, il n'y a pas de problème. Et le médecin a trouvé une solution en proposant un matériel assez supérieur de régler ça. ça n'a pas été réglé. Bon, je pense que c'est quelque chose quand même qui a ses inconvénients dans la préparation. Mais non, je ne peux pas dire concrètement, c'est de ça qu'ils ont besoin. Mais sur le plan préparation, ce que je peux dire, il y a ça.
D'accord. Amadou Kouyaté, en tout cas, jusqu'ici, le seul argument qu'on tient, c'est le fiasco qu'on a eu lors du déplacement à Johannesburg. Est-ce que ça peut être la seule justification de cette colère des joueurs? Est-ce que ça peut se comprendre?
Moi, je dirais non. En réalité, je dirais non.
Il y a autre chose?
Il y a autre chose. Moi, je pense qu'en réalité... Le voyage de Johannesburg, ça n'a pas commencé aujourd'hui, parce que le Mali, dans l'habitude, quand même, le fait. Même si on n'est pas quand même... Ce qui a été fait déjà auparavant, on le sait. Mais en réalité, ce voyage, quand même, ne doit pas susciter quand même ce genre de sortie des aigles, pour moi. Pourquoi? En réalité, moi, je dirais, comme mes deux présidents quand même ont parlé, moi, je dirais, en réalité, le renvoi, soit quand même de faire limogeage d'Éric Séguchel en est une partie de cette cause. Moi, je dirais bien comme ça. Pourquoi? En réalité, on a constaté durant combien d'années, il y a l'entraîneur qui l'a précédé, Makassouba, ça n'a pas été comme ça. Pourquoi en limogeant Séguchel, les joueurs se sont mis ensemble pour pouvoir quand même essayer de dénigrer, soit menacer de ne plus répondre aux sélections si les conditions ne sont pas changées. Mais quelles sont les conditions? C'est ce qu'ils n'arrivent pas à le dire. Maintenant, si vous tenez à le dire, on a dit, Amari a publié sur son statut, mais qui a signé? Qui sont les signataires? Jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre qui sont les signataires, quand même, de ce document.
Mais quand même, pratiquement tous les joueurs de la sélection ont partagé, ont publié cette déclaration. Ça veut dire qu'ils partagent.
C'est ça le problème. Ils partagent, mais qui a signé? En réalité, quand vous faites une lettre, c'est signé. La fédération a fait une convocation, ça a été signé. Et eux aussi, ils devraient le faire ainsi. Pour ne seulement qu'ils publient, mais il faut que chacun, quand même, d'entre eux, fait une pétition pour pouvoir signer. Publier, c'est facile, mais quand même, il faut signer. Là, dans ce cas, je pense que la démission de Séguchel, quand même, en est une partie. Parce qu'en réalité, ce que les gens ne sachent pas, ou bien soit ce que les autres ne veulent pas quand même entendre, c'est qu'il y a un clan au niveau de cette équipe nationale. À qui veut l'entendre, oui ou non. Ce clan existe. Le capitaine a ses clans. Il y a des clans aussi entre les joueurs nés en Côte d'Ivoire qui ont leur clan. Il y a les clans aussi entre les joueurs nés en France qui répondent aux sélections. Maintenant, ces trois clans qui existent au niveau des sélections nationales, pensez-vous qu'en réalité, même si on amène un entraîneur quand même qui a un niveau supérieur, peut gérer ce genre de situation? Je dirais non. Mais maintenant, l'entraîneur, c'est à lui quand même d'essayer quand même de gérer quand même à l'interne tous ces problèmes. Mais vu que lui-même n'a pas eu quand même la capacité de gérer, comme le doyen l'a si bien dit, surtout que les défaites quand même qui se sont suscitées quand même, on ne peut pas faire jouer un joueur qu'on peut le faire jouer. Mais il faut que le joueur ait la potentialité quand même de le faire jouer. On a vu le changement qu'il a fait ici à Bamako, ce changement ne devrait pas se faire.
D'accord. Cela est compris. Et Souleymane Bobo-Tunkara, selon Kouyaté, il y a certains, les joueurs seraient mécontents du limogeage de l'entraîneur. Et ça pourrait expliquer cette grogne au niveau de la sélection. Est-ce que vous avez déjà vu par le passé dans nos sélections que des joueurs, en tout cas, se rebellent entre guillemets parce qu'un entraîneur a été limogé?
D'abord, moi, je dis que moi, je ne suis ni du côté des joueurs, ni du côté de la fédération. Mais ce qui est sûr, il y a des problèmes au sein de cette sélection depuis plusieurs années. Ça, c'est une certitude. Les voyages sont mal organisés, les préparations sont mal faites, les stages sont mal organisés.
Ouais, mais pourquoi avoir attendu maintenant?
Justement, j'arrive. Ça, c'est des choses qui existent. Et le football malien a toujours rimé avec ça. Et souvent, ça joue sur les résultats. En tout cas, sur la durée, on a toujours eu des problèmes de voyage. Maintenant, les histoires de clans aussi, ça existe. Depuis 2002, il y a eu ce problème. Bon, je ne citerai pas du nom. Il y avait au moins trois clans au sein de l'équipe nationale. On voyait des banderoles fans club tantant, fans club tantant. Donc, la fédération a essayé de s'impliquer, mais ça n'a pas marché parce que ce sont les joueurs eux-mêmes qui étaient à la base de ça. En 2004, quand on a été en Tunisie, il y avait deux clans. Moi, j'étais là, j'ai couvert cette canne. Quand on entrait dans le bus pour aller au stade, les deux clans ne s'asseyaient même pas du même côté dans le bus. Ils étaient séparés. Donc, si vous avez des histoires comme ça dans une sélection, il faut un entraîneur charismatique, un entraîneur qui est capable de gérer les vestiaires. Le fait de dire qu'il n'y a pas de problème dans cette équipe, si, il y a de gros problèmes. Il y a de gros problèmes. Il suffit de voir ailleurs pour savoir qu'il y a de gros problèmes. Mon frère, le cadet l'a dit, rien qu'au niveau du staff médical. Quand on vous dit aujourd'hui que l'équipe nationale du Mali voyage avec un seul kiné, mais les gens vont se prendre la tête. Comment une équipe peut voyager avec un seul kiné? Le kiné, si les gens ne le savent pas, c'est le médecin qui s'occupe des joueurs avant et après les matchs. Donc, il fait les massages. Normalement, on ne doit pas avoir moins de 3 kinés dans une équipe. Surtout lors des phases finales de la CAN. Parce que qu'est-ce qui se passe pendant les phases finales de la CAN? Immédiatement après le match, on choisit un joueur pour aller faire le test antidopage. Et quand ce joueur-là est choisi, lui, il reste obligatoirement avec le kiné ou l'un des kinés. Parce que c'est le docteur qui supervise ce test antidopage. Et maintenant, les autres, s'il n'y a pas de kiné, qu'est-ce que les autres vont faire quand ils vont arriver à l'hôtel? Donc ça, c'est des choses incroyables. Mais ce sont des choses qui existent depuis plusieurs années. Donc, c'est quand je vois dans la lettre des joueurs, encore que c'est une lettre qui n'est pas signée, moi, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça. Donc, quand je vois dans leur lettre, quand je les entends dire qu'il faut que les choses changent, ça, c'est clair. Et quand ils disent également qu'il est temps qu'on se dise certaines vérités, ça aussi, c'est vrai. Que ce soit du côté de la fédération ou du ministère, il y a certaines vérités qu'on doit maintenant se dire. Parce que le football est en train d'évoluer. Nous, on est en train de rimer à contre-courant de l'évolution du football. Ça ne peut pas marcher. Même si on obtient un résultat aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est sûr que ce résultat-là, on ne peut pas continuer sur la durée. Donc, il y a des choses. Il faut qu'on arrête maintenant les bricolages. Il faut qu'on essaie de préparer les équipes sereinement. Et puis, de la manière la plus efficace possible. Parce que l'État fait beaucoup d'efforts. L'État fait vraiment beaucoup d'efforts pour que nous, on se retrouve dans des situations comme ça. Franchement. Donc, depuis 2002, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts en termes d'infrastructures, en termes de primes de joueurs. On a même déjà instauré une politique de paiement de primes. Donc, tout ça, c'est vraiment des efforts qui sont faits par l'État qui doivent permettre vraiment du côté de la fédération et même du côté des joueurs d'être plus ambitieux, d'être à la hauteur des attentes du peuple. Il y a des problèmes, hein. Ça, je ne dirais pas que ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème, qu'ils ont tort ou bien qu'il y a ceci, il y a cela. Mais pour moi, il y a des problèmes et on doit accepter qu'il y a des problèmes parce que tant qu'on n'accepte pas qu'il y a des problèmes, on ne peut pas trouver de solution.
D'accord. Drissa Nyono, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des problèmes partout dans toutes les sélections, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cas du Mali. Est-ce que ces problèmes-là peuvent justifier vraiment les mauvais résultats, les contre-performances, par exemple pour les dernières rencontres des éliminatoires du Mondial? Est-ce que ces problèmes-là peuvent expliquer ces mauvaises performances?
Exactement. Quand tu vois qu'il n'y a pas de résultat, ça veut dire que quelque part, il y a des insuffisances. Et comme le doyen l'a dit, imaginez sur le voyage de l'Afrique du Sud, il y a le kiné qui n'a pas suivi la première mi-temps. Il y a un kiné qui n'a pas suivi la première mi-temps. Mm-hmm. Ça, c'est pas normal.
Et contre le Ghana? Ici?
Contre le Ghana, c'est vrai. Les gens vont dire sur le terrain. Et c'est vrai, il n'y a pas de résultat. Mais moi, je vous ai parlé de certains cas qui peuvent empêcher d'avoir un résultat au niveau de la récupération également. Voilà. Maintenant, le résultat à Madagascar, moi, je ne crache pas là-dessus. En Afrique du Sud, je ne crache pas là-dessus. Parce que c'est un résultat, c'est un match nul. Et je crois que c'est un match nul qui est également payé par le contribuable pour les efforts du joueur. Je crois que là, il y a l'arrêté interministériel qui le prime. Un match nul. Maintenant, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs ont parlé de problèmes. Moi, je pense que quand eux-mêmes, ils ont reconnu qu'à un moment donné sur le terrain, ils ne sont pas arrivés à apporter le résultat escompté. Ils se sont remis en cause, eux. Ils ont salué les efforts du pays. Deux, ils ont également parlé du public qui sort pour les soutenir. Mais ils disent que même avec tout ça, là, ça ne va pas. Maintenant, si ça ne va pas, ils demandent à leurs dirigeants maintenant de se remettre en cause. Je pense que c'est le débat qui doit être... c'est ce débat-là qui doit être ouvert. Maintenant, s'ils disent que les ambitions maintenant de ces dirigeants-là, c'est ça qu'ils doivent également nous dire. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, ces jeunes, ce sont les mêmes qui ont joué la CAN cadet en 2015, qui ont remporté, qui ont joué en 2017, qui l'ont remporté, qui ont joué la CAN junior, qui l'ont remporté, qui ont été demi-finalistes, finalistes du mondial dans leur catégorie 17 et demi-finalistes en junior. Et ce sont ces mêmes, depuis 2 ans, qui n'avaient pas perdu, si ce n'était que le match contre le Ghana. Ce sont les mêmes qui sont déplacés ici, qui ont été réduits en infériorité numérique au Libéria pour gagner contre le Soudan du Sud. Ce sont les mêmes qui ont voyagé la veille d'un match, aller à Casablanca, dormir, prendre du temps à l'aéroport, prendre un bus et faire 3 heures de route pour aller battre l'Arabie Saoudite. Donc, il y a tout ça là. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas cracher sur leur effort. C'est qu'aujourd'hui, s'ils ont soulevé un problème, ça veut dire que quelque part, ils ont remarqué, eux aussi, il y a des insuffisances. Et ces insuffisances-là, s'ils appellent leurs dirigeants à prendre leurs responsabilités, je pense qu'eux aussi doivent poser le problème et voir et analyser où trouver également des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le doyen a dit, l'État fait des efforts, il faut le reconnaître. Mais les joueurs également font des efforts. Il faut le reconnaître parce que tout à l'heure, ils ont été à la CAN, c'est vrai, ils ont été quart de finaliste. Mais grâce à ces efforts-là, mais il y a 2 millions de dollars qui sont rentrés dans les caisses. Ça peut permettre à faire également, à accompagner leur performance quelque part. C'est quelque chose que ça peut permettre à faire que maintenant, d'où part cet argent-là et qui ne parvient pas à accompagner et aussi les mêmes joueurs qui également font des efforts sur le terrain pour bénéficier de certaines conditions.
Quoi, tu parlais tout à l'heure de clans, qu'il y aurait des clans. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a... En tout cas, nous ne le sentons pas, par exemple, pour cette déclaration.
Je ne vois pas de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'on peut être dans un groupe et on n'a pas la même affinité. Vous savez, même dans les équipes nationales qui remportent les Coupes du Monde, il y a des joueurs qui sont plus proches de l'un des autres. Moi, même sur le terrain, ils jouent ensemble. On n'a pas vu un joueur sur le terrain refuser de faire la passe à quelqu'un. Mais quand on est ensemble, on peut être dans un groupe. Et Kouyaté, on peut être dans le même groupe, on voyage ensemble, on arrive dans un coin où il peut y avoir des gens avec lesquels il a duré ensemble et il peut se rencontrer certains histoires que moi, je ne peux y être. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que c'est par affinité. Les gens, peut-être qui ont le même... Mais comment dirais-je, la même compréhension des choses. Parce que quelqu'un qui a été élevé ici, il peut, à l'entraînement, profiter et être dans la même séance d'entraînement que ses coéquipiers. Il va s'entraîner. Mais après, il va retrouver l'ami à côté qui peut taquiner. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne caractérise pas ça en clan, mais il faut reconnaître, dans un vestiaire également, il y a un capitaine, il y a son vice-capitaine, et il y a un deuxième, sinon même un quatrième. Quand il faut prendre une décision, ce sont les 4 qui se réunissent, qui prennent des décisions au nom de l'équipe. Et on a vu, suite à cette décision, ils se sont concertés et plus d'une 40aine de joueurs internationaux ont partagé. Il y en a qui étaient en sélection, qui ont connu et vu des choses par le passé. Par exemple, Moussa Marega, qui depuis 2019, après la CAN 2019, n'est pas là. Mais il a partagé. Le capitaine Ablaye Diaby, qui était là lors du dernier barrage, et dont depuis qu'il n'a pas été en sélection. Lui, il a partagé.
Donc, justement, est-ce que cela ne risque pas d'aggraver, de compliquer la situation, le soutien de ces anciens internationaux-là, qui ne sont pas tous d'accord aussi quelqu'un comme Soumaïla Koulibaly, qui n'est pas d'accord, mais il y a d'autres internationaux quand même qui soutiennent ces joueurs. Est-ce que cela ne risque pas, je vais poser cette question à Souleymane Bobo, est-ce que cela ne risque pas d'aggraver, d'attiser encore
Ça va encore aggraver la division. C'est une certitude. Bon, je ne pense pas que Soumaïla soit aujourd'hui le meilleur exemple pour réagir par rapport à ça. Il est sélectionneur, il travaille avec la fédération. Donc lui, moi, je ne le considère pas comme un ancien international. Je le considère plus comme un sélectionneur. Je ne dis pas que je respecte son avis. L'histoire de clan là. Il faut pas confondre clan et amitié. Quand on est dans une équipe, c'est comme quand on est dans un service. On n'a pas besoin de s'aimer pour pouvoir travailler ensemble. Non, il y a une différence. Donc, il y a des affinités entre les joueurs. Ça, c'est partout. Mais quand on parle de clan, ça veut dire qu'il y a une division. Le clan, c'est une division. Et quand il y a des clans dans une équipe, c'est seulement l'entraîneur qui peut amener, c'est-à-dire à mettre fin à ça. Donc, moi aujourd'hui, je dis qu'il y a, que ce soit ceux qui sont contre ou pour les joueurs, je dis qu'il y a un problème. Il faut qu'on accepte vraiment, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a un problème. Et les joueurs sont vraiment aujourd'hui les mieux placés pour le dire. Et ils disent que, comme le jeune frère l'a dit, ils ont loué les efforts de l'État. Ils ont remercié les supporters. Oui. Ils ont fait un mea culpa eux-mêmes. Ils disent qu'ils ont leur part de responsabilité dans le truc. Mais ils veulent que les choses changent au niveau de la fédération. Parce que c'est la fédération qui est chargée de la gestion technique de l'équipe. Donc, quand ils pointent la fédération, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent entre eux et la fédération. Moi, je ne dis pas au sein de la fédération, mais il y a des choses qui se passent entre eux et la fédération qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'apprécient pas et qui nuisent certainement, qui nuisent probablement à leur performance. Donc, ils sont bien placés pour le dire. Maintenant, quand ils parlent comme ça, la fédération doit ouvrir un dialogue, à mon avis. Moi, je ne suis pas d'accord avec la forme de leur revendication. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'ils se sont comportés en syndicalistes. Mais le fait de parler de problèmes, peut-être qu'ils auraient dû le faire d'une autre manière. Mais il ne faut pas que les gens rejettent systématiquement ce qu'ils ont dit. Parce que c'est eux les principaux acteurs. Nous sommes des journalistes sportifs. Les dirigeants de la fédération sont des dirigeants. L'État, c'est l'État. Et les acteurs, c'est eux. Et je suis aussi d'accord que il y a une partie de cette équipe qui était effectivement très proche de l'entraîneur, de l'ex-entraîneur, et qui n'a pas aimé certainement son limousage. Mais ça, je dirais que ça, c'est la faute à l'entraîneur lui-même, parce qu'il a mal géré le vestiaire. Il a mal géré le vestiaire à travers ses choix, à travers la distance qu'il a prise avec les techniciens locaux et avec même le monde, les gens avec lesquels il devait travailler ici.
D'accord.
Donc forcément, ça, c'est une politique, à mon avis, qui s'est retournée contre lui.
Alors les joueurs menacent de boycotter les prochains matchs si les choses ne changent pas. Alors, est-ce possible? Qu'est-ce que les textes disent par rapport à ça? Nous avons posé la question à, en tout cas, un président de Ligue, en l'occurrence Moustapha Maïga. Il est le président de la Ligue régionale de football de Ségou. Je vous propose d'écouter ce qu'il nous a dit.
Cette obligation au niveau des joueurs internationaux, c'est au niveau de l'article 111 avec 4 aliénas. Cet article nous dit expressément que tout joueur qui est sélectionné par sa fédération est tenu d'être présent et de suivre les directives du comité exécutif. Et le dernier aliéna cite bien, si un joueur refuse la convocation sans cas de force majeure, il sera suspendu au prochain match de son club d'origine après le tournoi pour lequel la fédération l'avait convoqué. Au niveau de la FIFA, il existe une commission spéciale qui s'occupe du statut et du transfert des joueurs. En plus de la suspension pour le prochain match de son club d'origine, il y a des sanctions complémentaires qui peuvent arriver.
Alors, Amadou Kouyaté, selon Moustapha Maïga, les joueurs, en tout cas, ils risquent d'être suspendus pour des matchs s'ils boycottaient ces rencontres. Est-ce que vous le saviez déjà? Est-ce que les joueurs même sont conscients de cela? Ou bien ils sont prêts à accepter ça pour que les choses changent?
Je pense qu'en réalité, ils sont déjà informés par rapport à ça, parce que déjà, ce sont des choses qui se disent quand, tant que tu deviens professionnel, ce sont des trucs qui se disent lors de vos contrats respectifs qui vous lient entre votre club respectif. Donc je pense quand même qu'ils sont conscients de cela. Bon, maintenant, comme ils ont parlé, tant que la situation ne change pas, maintenant la situation quand même, ils n'ont pas évoqué la situation, mais en réalité, je pense qu'en réalité, comme le doyen l'a dit, il y a un sérieux problème aussi au niveau de la fédération, qu'on le dise. Parce que la fédération, en tant que telle, il y a un énorme problème au sein de la fédération malienne de football. À qui veut l'entendre, oui ou non?
Comme quoi?
Donc maintenant, le problème, ça, c'est au niveau de la présidence. Qu'on le dise oui ou non, au niveau de la présidence, ça pose problème. Mais maintenant, même si le président, quand même, a mandaté son premier vice-président pour pouvoir, quand même, exécuter, quand même, toutes les affaires courantes, mais au sein même de la fédération, d'après les informations que j'ai, entre les membres, ça ne va pas du tout. Parce qu'il y a certains membres qui ne veulent même pas voir la tête du premier vice-président, ça pose énormément de problèmes. Alors que quand vous êtes un comité exécutif, je pense qu'en réalité, votre premier job, c'est quoi? C'est de réussir ensemble battre ensemble et avoir quand même quelque chose ensemble. C'est ça comme objectif. Maintenant, parlant de cela, quand même, pour les sanctions, quand même, c'est unanime. S'ils refusent quand même de venir et que la situation ne change pas, s'ils refusent de venir, je pense que ça pourrait quand même leur porter préjudice. Mais si un joueur quand même alerte comme ça, moi je pense que si la situation n'est pas changée, les situations ne sont pas changées, je pense quand même mieux vaut ne pas les convoquer de les convoquer. On a vu le cas avec les joueurs de basketball dans le temps qui ont répondu à l'appel, qui ont refusé de jouer, arrivé à Kigali pour ne pas jouer. Et ça pourrait être le cas. Et dans ce cas, le Mali a été sanctionné du refus des joueurs de basketteurs. Et si tel est le cas, je pense qu'en réalité, si la situation n'est pas amélioré et que la situation n'a pas changé, je pense qu'arrêter, mieux vaut ne pas les convoquer que de les convoquer qu'ils refusent de venir jouer. Même si tu les convoques, s'ils viennent, s'ils ne jouent pas.
Mais si on ne les convoque pas, est-ce qu'on peut les remplacer?
Bien sûr, il y a plusieurs joueurs maliens qui sont là, qui peuvent venir jouer et qui sont différents de ces joueurs-là.
D'accord.
Moi, je suis même surpris d'entendre les gens parler de cet article 111 de la FIFA. Mais vous savez, quand il y a un joueur qui ne veut pas jouer avec l'équipe nationale, pourquoi on va le convoquer? Il n'y a pas de raison qu'on le convoque. Ça, c'est ma compréhension des choses. Donc, on n'en arrivera même pas là. Parce que, normalement, il y a un pré-contact qui se fait entre l'entraîneur, entre les sélectionneurs et les joueurs. Donc, avant même que la liste ne soit publiée, l'entraîneur, il doit d'abord s'entretenir avec les joueurs pour savoir leur disponibilité. Et même s'il y a des cas de maladie, ces maladies-là sont justifiées non pas par les médecins du club, mais par les médecins de la fédération. Donc ça, ce sont des choses très, très claires. Moi, je ne pense pas qu'on va d'abord en arriver là. Ça, c'est un. Et puis des deux, les joueurs ont dit que, en tout cas dans la correspondance qui a été publiée, là encore, je le répète, hein, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça parce qu'il n'y a pas de signature. Ils ont dit que ils pourraient être amenés à boycotter. Ils n'ont pas dit qu'ils vont boycotter. Ça peut les amener. D'accord. Donc, ça, c'est, il faut bien comprendre les choses. Mais moi, en tout cas, en tant que journaliste sportif, je ne suis pas dirigeant, en tant que journaliste sportif, pour moi, un joueur qui ne veut pas jouer avec l'équipe nationale, c'est le premier joueur qu'on doit écarter.
Mais est-ce que pour vous, la convocation du capitaine, est-ce que ça peut, en tout cas, on peut s'attendre que ça calme les choses ou bien ça pourrait envenimer la situation?
Bon, selon ce que moi j'ai lu, en tout cas dans la convocation que j'ai vue, je ne sais pas si c'est la convocation qui est la vraie, qui est signée. C'est signé par le secrétaire général de la Fédération malienne de football, Sidibé Kaï Magassa. Et dans cette convocation-là, il est écrit qu'on lui reproche des publications faites ces derniers jours sur la vie interne de l'équipe nationale. On n'a pas parlé du voyage, encore moins de cette correspondance, de cette pétition qui a été signée. En tout cas, dans la correspondance de la Fédération que moi j'ai lue, on lui reproche des publications faites sur les réseaux sociaux sur la vie interne des aigles.
Est-ce que dans la forme Drissa Nono, est-ce que ça peut pas compliquer les choses? C'est une convocation que nous avons tous vue sur les réseaux sociaux et puis on lui dit qu'il a 48 heures pour se présenter. S'il se trouve qu'il n'est pas à Bamako, est-ce que ça risque pas de...
Au fait, c'est pas un joueur qui appartient à notre championnat. C'est pas un joueur qui joue dans notre championnat.
Donc on peut pas le convoquer comme ça.
Non, on peut pas le convoquer comme ça. Donc mais bon, par respect, peut-être qu'il a envoyé un courrier. Bon, il peut également répondre et les retourner. Sinon, il y a aucune règle ou aucun règlement c'est qui stipule ou qui peut l'amener. Et le forcer à être présent ou répondre. Maintenant, c'est un aspect. Je pense que peut-être quand vous voyez dans la forme, un dirigeant entre son joueur, tu veux le parler, tu peux prendre ton téléphone quand même, tu le contactes. Dans la mesure où tu sais que c'est le capitaine même de ton équipe, tu prends ton téléphone, tu le contactes. Vous prenez rendez-vous. Maintenant, je crois que ça, c'est dans la suite de ce qui s'est passé. Au fait, le premier élément, c'est quoi? C'est que d'abord, la fédération dit qu'elle n'est pas organisatrice du voyage. Les joueurs ont parlé, ils ont mis en cause le voyage. Si vous n'êtes pas organisé, pourquoi répondre? Ça, c'est la première question. Maintenant, je crois que les joueurs ont compris par cette réponse que, après les derniers événements qui se sont passés entre eux, donc c'est pour retourner le public contre eux. Donc, eux aussi, ils se sont regroupés, ils ont répondu. Donc, c'est vrai, nous, on n'a pas de résultats. On salue l'État qui nous fournit et qui met les conditions. Mm-hmm. Les supporters, bon, nous aussi, et vous aussi, c'est vrai, on ne vous a pas donné satisfaction. Mais vous qui nous dirigez, il faut également prendre votre responsabilité parce que quelque part, dans la gouvernance, vous avez également des insuffisances. Donc ça, c'est une réponse. Maintenant, pour le répondre, bon, eux aussi, ils envoient par
D'accord. Donc, rapidement,
pour moi, hein, d'après les informations également que j'ai apprises, c'est qu'il va répondre par courrier également, par respect. Il va les répondre par courrier, mais il n'est pas oublié parce que son club, la date FIFA également est dépassée. Hein. Donc, il faut reconnaître. On n'est plus en date FIFA. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il est un joueur salarié de la Real Sociedad et non d'un club évoluant dans le championnat du Mali.
La fédération devrait quand même connaître tout ça.
Moi, je pense que dans la bonne courtoisie, mm-hmm. il peut venir mm-hmm. et cracher les mille mots s'il veut. En réalité, ce qu'il reproche mm-hmm. de la fédération ouverte de voyage et consorts, mm-hmm. qu'il vienne, qu'il s'assoie avec, qu'il crache les mille mots. Si réellement mm-hmm. il veut venir quand même, moi je pense quand même que c'est le moment propice pour que lui-même il essaie d'évoquer mm-hmm. tous les problèmes quand même qu'ils sont là et qu'il est en train de susciter, mm-hmm. qu'il l'évoque et puis qu'on essaie de voir s'ils peuvent en trouver des solutions. Dans les cas échéants, mm-hmm. il peut quand même répondre par mail ou comme on l'a envoyé par courrier.
Nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Une dernière question pour vous trois. Quelles pourraient être les conséquences de cette situation si elle restait en l'état sur nos chances de qualification? C'est vrai que nous ne sommes pas en bonne posture, mais nous ne sommes pas complètement éliminés pour une qualification mondiale. Souleymane Bobo, s'il vous plaît.
Non.
Les conséquences?
Pour moi, il faut trouver une solution rapide. Il faut trouver une solution rapide en ouvrant le dialogue avec les joueurs. Le ministère même doit s'impliquer par rapport à ça, parce que c'est une situation qui peut ternir l'image même du football et qui peut jouer sur la performance de l'équipe nationale. Il faut rapidement trouver une solution à ça, et avant de passer déjà au choix du nouveau sélectionneur. Ça, c'est extrêmement important. C'est un problème qu'il faut régler d'abord avant de penser à recruter un nouveau sélectionneur.
D'accord.
Et moi, je pense que c'est le problème, il n'est pas aussi grave que ça. Il n'est pas du tout aussi grave que ça.
D'accord.
Il y a une situation qui est là, une situation de crise. On s'assoit, on en discute et puis on met les points sur les i.
D'accord.
On dit que le linge se lave en famille, mais en réalité, quand même, comme les linges ont déjà sorti. Maintenant, primordial d'abord, comme le doyen l'a bien dit, et c'est comment d'avoir un dialogue entre département, fédération et joueurs. Parce qu'en réalité, tous ces problèmes doivent être situés ensemble. Les joueurs, que ce soit les représentants ou les capitaines, il y a la fédération aussi qui doit être présentée et puis le ministère des Sports aussi qui doit essayer quand même de voir quand même un dialogue entre eux pour essayer quand même de bannir quand même cette mésentente-là qui circule entre les deux parties.
D'accord. Drissa.
Non, je suis tout à fait d'accord que par le dialogue, on peut réussir à faire quelque chose. Maintenant, il est important d'engager ce dialogue-là avec les joueurs donc, et également les
équipes. Mais est-ce que le dialogue n'est pas rompu déjà?
Bon,
entre le comité exécutif et les joueurs,
il peut toujours avoir des solutions. Parce que, voilà, quel qu'en soit ce qui existe, il y a quand même quelqu'un qui peut réunir les deux.
D'accord.
Donc, comme le doyen l'a dit, ça c'est le ministre en charge des sports et il faut trouver une solution pour réunir tout le monde et que également les responsabilités également soient soutenues à chaque niveau. Et on propose des solutions idoines pour aller chercher d'autres résultats à venir.
D'accord, c'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de cette tension entre les Aigles du Mali, l'équipe nationale senior de football et le comité exécutif de la Fédération malienne de football. Pour en parler, nous recevions Souleymane Bobo Tunkara, journaliste sportif. Il est à l'essor, Drissa Nyono également, et Amadou Kouyaté, tous les journalistes sportifs. Sekou Gadjigo a modéré ce grand dialogue mis en onde par Seydou Ndao. À la régie vidéo, il y avait Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Emirana Kilou Maïga. On se retrouve demain pour un autre numéro.